Mopra de George Sand. Notice. Quand j'écrivis le roman de Mopra à Nohant, 1846, je crois, je venais de plaider en séparation. Le mariage, dont jusque-là j'avais combattu les abus, laissant peut-être croire, faute d'avoir suffisamment développé ma pensée, que j'en méconnaissais l'essence, m'apparaissait précisément dans la toute beauté morale de son principe. À quelque chose malheur est bon, pour qui sait réfléchir. Plus je venais de voir combien il est pénible et douloureux d'avoir à rompre de tels liens, plus je sentais que ce qui manque au mariage, ce sont des éléments de bonheur et d'équité d'un ordre trop élevé pour que la société actuelle s'en préoccupe. La société s'efforce au contraire de rabaisser cette institution sacrée en l'assimilant à un contrat d'intérêt matériel. Elle l'attaque de tous les côtés à la fois, par l'esprit de ses mœurs, par ses préjugés, par son incrédulité hypocrite. Tout en faisant un roman pour m'occuper et me distraire, la pensée me vint de peindre un amour exclusif, éternel, avant, pendant et après le mariage. Je fis donc le héros de mon livre proclamant à 24 ans sa fidélité pour la seule femme qu'il eût aimée. L'idéal de l'amour est certainement la fidélité éternelle. Les lois morales et religieuses ont voulu consacrer cet idéal. Les faits matériels le troublent. Les lois civiles sont faites de manière à le rendre souvent impossible ou illusoire. Mais ce n'est pas ici le lieu de le prouver. Le roman de Mopra n'a pas été alourdi par cette préoccupation. Seulement le sentiment qui me pénétrait particulièrement à l'époque où je l'écrivis se résume à ces paroles de Mopra vers la fin de l'ouvrage. Elle fut la seule femme que j'aimais dans toute ma vie. Jamais aucune autre n'attira mon regard et ne connut l'étreinte de ma main. George Sand, 5 juin 1851. À Gustave Papet. Quoique la mode proscrive peut-être l'usage patriarcal des dédicaces, je te prie, frère et ami, d'accepter celle d'un conte qui n'est pas nouveau pour toi. Je l'ai recueilli en partie dans les chaumières de notre vallée noire. Puissions-nous vivre et mourir là, en redisant chaque soir notre invocation chérie, Sancta Simplicitas. George Sand. Sur les confins de la Marche et du Berry, dans le pays qu'on appelle la Varenne, qui n'est qu'une vaste lande coupée de bois de chêne et de châtaigniers, on trouve, au plus fourré et au plus désert de la contrée, un petit château en ruine, tapi dans un ravin, et dont on ne découvre les tourelles ébréchées qu'à 100 pas de la herse principale. Les arbres séculaires qui l'entourent et les roches éparses qui le dominent l'ensevelissent dans une perpétuelle obscurité, et c'est tout au plus si, en plein midi, on peut franchir le sentier abandonné qui y mène sans se heurter contre les troncs noueux et les décombres qui l'obstruent à chaque pas. Ce sombre ravin et ce triste castel, c'est la roche Mopra. Il n'y a pas longtemps que le dernier des Mopra, à qui cette propriété tomba en héritage, en fit enlever la toiture et vendre tous les bois de charpente. Puis, comme s'il eût voulu donner un soufflet à la mémoire de ses ancêtres, il fit jeter à terre le portail, éventrer la tour du nord, fendre de haut en bas le mur d'enceinte, et partit avec ses ouvriers, secouant la poussière de ses pieds et abandonnant son domaine aux renards, aux orfraies et aux vipères. Depuis ce temps, quand les bûcherons et les charbonniers qui habitent les huttes éparses aux environs passent dans la journée sur le haut du ravin de la roche Mopra, il siffle d'un air arrogant ou envoie à ses ruines quelque énergique malédiction. Mais quand le jour baisse et que l'engoulevent commence à glapir du haut des meurtrières, bûcherons et charbonniers passent en silence, pressant le pas, et de temps en temps font un signe de croix pour conjurer les mauvais esprits qui règnent sur ces ruines. J'avoue que moi-même je n'ai jamais côtoyé ce ravin la nuit sans éprouver un certain malaise. Et je n'oserais pas affirmer par serment que dans certaines nuits orageuses, je n'ai pas fait sentir l'éperon à mon cheval pour en finir plus vite avec l'impression désagréable que me causait ce voisinage. C'est que dans mon enfance, j'ai placé le nom de Mauprat entre ceux de Cartouche et de Barbe Bleue, et qu'il m'est souvent arrivé alors de confondre dans des rêves effrayants les légendes surannées de l'ogre et du croque-mitaine avec les faits tout récents qui ont donné une sinistre illustration dans notre province à cette famille des Mauprat. Souvent à la chasse, lorsque mes camarades et moi nous quittions l'affût pour aller nous réchauffer au tas de charbon allumé que les ouvriers surveillent toute la nuit, j'ai entendu ce nom fatal expirer sur leurs lèvres à notre approche. Mais lorsqu'ils nous avaient reconnus et qu'ils s'étaient bien assurés que le spectre d'aucun de ces brigands n'était caché parmi nous, ils nous racontaient à demi-voix des histoires à faire dresser les cheveux sur la tête et que je me garderais bien de vous communiquer, désolé que je suis d'en avoir noirci et endolori ma mémoire. Ce n'est pas que le récit que j'ai à vous faire soit précisément agréable et riant. Je vous demande pardon, au contraire, de vous envoyer aujourd'hui une narration si noire. Mais dans l'impression qu'elle m'a faite, il se mêle quelque chose de si consolant, et si j'ose m'exprimer ainsi, de si sain à l'âme, que vous m'excuserez, j'espère, en faveur des conclusions. D'ailleurs, cette histoire vient de m'être racontée. Vous en demandez une ? L'occasion est trop belle pour ma paresse et pour ma stérilité. C'est la semaine dernière que j'ai enfin rencontré Bernard Mauprat, ce dernier de la famille qui, ayant depuis longtemps fait divorce avec son infâme parenté, a voulu constater par la démolition de son manoir l'horreur que lui causaient les souvenirs de son enfance. Ce Bernard est un des hommes les plus estimés du pays. Il habite une jolie maison de campagne vers Châteauroux, en pays de plaine. Me trouvant près de chez lui, avec un de mes amis qui le connaît, j'exprimai le désir de le voir, et mon ami, me promettant une bonne réception, m'y conduisit sur le champ. Je savais en gros l'histoire remarquable de ce vieillard, mais j'avais toujours vivement souhaité d'en connaître les détails et surtout de les tenir de lui-même. C'était pour moi tout un problème philosophique à résoudre que cette étrange destinée. J'observais donc ses traits, ses manières et son intérieur avec un intérêt particulier. Bernard Mauprat n'a pas moins de 80 ans, quoique sa santé robuste, sa taille droite, sa démarche ferme et l'absence de toute infirmité annoncent 15 ou 20 ans de moins. Sa figure m'eût semblé extrêmement belle, sans une expression de dureté qui faisait passer, malgré moi, les ombres de ses pairs devant mes yeux. Je crains fort qu'il ne leur ressemble physiquement. C'est ce que lui seul eût pu nous dire, car ni mon ami ni moi n'avons connu aucun des Mauprat, mais c'est ce que nous nous gardâmes bien de lui demander. Il nous sembla que ses domestiques le servaient avec une promptitude et une ponctualité fabuleuses pour des valets berrichons. Néanmoins, à la moindre apparence de retard, il élevait la voix, fronçait un sourcil encore très noir sous ses cheveux blancs et murmurait quelques paroles d'impatience qui donnaient des ailes aux plus lourds. J'en fus presque choqué d'abord. Je trouvais que cette manière d'être sentait un peu trop le Mauprat. Mais à la manière douce et quasi paternelle dont il leur parlait un instant après, et à leurs ailes qui me semblaient bien différentes de la crainte, je me réconciliais bientôt avec lui. Il avait d'ailleurs pour nous une exquise politesse et s'exprimait en des termes les plus choisis. Malheureusement, à la fin du dîner, une porte qu'on négligeait de fermer et qui amenait un vent froid sur son vieux crâne lui arracha un jurement si terrible que mon ami et moi nous échangeâmes un regard de surprise. Il s'en aperçut. « Pardon, messieurs, nous dit-il. Je vois bien que vous me trouvez un peu inégal. Vous voyez peu de choses. Je suis un vieux rameau heureusement détaché d'un méchant tronc et transplanté dans la bonne terre, mais toujours noueux et rude, comme le houx sauvage de sa souche. J'ai eu encore bien de la peine avant de venir à l'état de douceur et de calme où vous me trouvez. Hélas, je ferais, si je l'osais, un grand reproche à la Providence, c'est de m'avoir mesuré la vie aussi courte qu'aux autres humains. Quand, pour se transformer de loup en homme, il faut une lutte de 40 ou 50 ans, il faudrait vivre 100 ans par-delà pour jouir de sa victoire. Mais à quoi cela pourrait-il me servir ? Ajouta-t-il avec un accent de tristesse. La fée qui m'a transformée n'est plus là pour jouir de son ouvrage. Bah, il est bien temps d'en finir. Puis il se tourna vers moi et me regardant avec ses grands yeux noirs étrangement animés. « Allons, petit jeune homme, me dit-il, je sais ce qui vous amène. Vous êtes curieux de mon histoire. Venez près du feu et soyez tranquille. Tout Mopra que je suis, je ne vous y mettrai pas en guise de bûche. Vous ne pouvez me faire un plus grand plaisir que de m'écouter. Votre ami vous dira pourtant que je ne parle pas facilement de moi. Je crains trop souvent d'avoir affaire à des sots. Mais j'ai entendu parler de vous, je sais votre caractère et votre profession. Vous êtes observateur et narrateur, c'est-à-dire, excusez-moi, curieux et bavard. » Il se prit à rire et je m'efforçai de rire aussi, tout en commençant à craindre qu'il ne se moquât de nous. Et malgré moi, je pensais au mauvais tour que son grand-père s'amusait à jouer au curieux imprudent qui allait le voir. Mais il mit amicalement son bras sous le mien et me faisant asseoir devant un bon feu auprès d'une table chargée de tasses. « Ne vous fâchez pas, me dit-il, je ne peux pas à mon âge guérir de l'ironie héréditaire. La mienne n'a rien de féroce. À parler sérieusement, je suis charmé de vous voir et de vous confier l'histoire de ma vie. Un homme aussi infortuné que je l'ai été mérite de trouver un historiographe fidèle qui lave sa mémoire de tout reproche. Écoutez-moi donc et buvez du café. » Je lui en offris une tasse en silence. Il la refusa d'un geste et avec un sourire qui semblait dire « Cela est bon pour votre génération efféminée. » Puis il commença son récit en ces termes.